à Tanger au Maroc, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique, et ici à Boston, Massachusetts, Jean-Pierre Carrigué, professeur, également analyste politique. Vous êtes à Dickinson College. Alors merci à tous. Chantal, on a vu les populations de Goma faire exploser leur colère cette semaine après que le M23 a pris Rutshuru et Kiwanja. Qu'est-ce qui vous frustre? La peur que Goma ne soit la prochaine sur la liste? La prochaine ville sur la liste?
Merci beaucoup Abdou, je salue mes co-débatteurs et tous les téléspectateurs de cette émission. Je vais commencer par rendre hommage à mes compatriotes et à toutes les personnes affectées par cette résurgence du conflit M23. Ça fait pratiquement près de 10 ans que nous avons vécu la même situation. C'était encore en novembre 2012 que le M23 a pris la capitale du Nord Kivu, la ville de Goma. Et donc aujourd'hui, la prise de Rutshuru et de Kiwanja constitue une inquiétude grave parce que l'histoire ne cesse de se répéter et nous dénonçons cela et nous condamnons avec la dernière énergie cette résurgence de crise sécuritaire. Je m'en vais d'abord dire que tous les pays africains sont régis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette charte stipule qu'aucun pays ne peut servir de base arrière pour les groupes armés pour venir insécuriser un autre pays. Mais hélas, le Rwanda et l'Ouganda ne cessent de récidiver en servant des bases arrière à ces troupes.
Mais Chantal, le Rwanda dit qu'il s'agit plutôt d'une rébellion congolaise. Certes, à dominance tutsi, mais c'est une rébellion congolaise. Qu'est-ce que vous en dites?
Les preuves sont là. Depuis 2012, nous avons des preuves qui allèguent, qui démontrent ouvertement qu'il y a des mercenaires, il y a tout l'équipement. Parce que l'équipement que détient les M23, c'est un équipement d'une armée national d'un pays et pas d'un groupe armé, parce que la RDC bien sûr ne cesse de vivre des crises sécuritaires, a beaucoup de groupes armés, près de 120, ça aussi on les dénonce, mais l'équipement, les munitions, la tactique et même la stratégie sur terrain démontrent que c'est une armée nationale qui est en train d'insécuriser une autre armée congolaise. Et donc aujourd'hui, c'est pratiquement le Rwanda qui agresse la RDC. Et c'est la raison pour laquelle
on pourra revenir sur ça. Henri, la chute de Bunagana avait constitué une sorte de coup de réveil sur la puissance de feu du M23 ressuscité. Et là encore, on voit un M23 qui a été défait il y a presque une décennie, qui confirme son retour en force. Comment est-ce que vous expliquez tout cela? Kinshasa, en tout cas, n'y va pas par quatre chemins pour accuser Kigali.
C'est pour comprendre la situation qui prévaut à l'heure actuelle à l'est de la RDC, il faut véritablement remonter dans le passé pour comprendre les véritables raisons, les ressorts de cette crise. Je rappelle quand même qu'en 2002, il y a 20 ans déjà, le 30 juillet à Pretoria, en fait, la RDC et le Rwanda signaient un protocole d'accord et quelques semaines plus tard, le 15 août à Luanda, c'était la même chose entre la RDC et l'Ouganda. Cela n'a jamais empêché ces deux pays d'avoir des arrière-pensées vis-à-vis de la RDC. Je rappelle souvent que le Rwanda se sert de certains groupes armés qui lui ont fait allégeance comme variable d'ajustement dès lors que ses intérêts sont compromis. Dès qu'il y a des initiatives dans la sous-région pour mutualiser les efforts pour essayer de stabiliser la situation sécuritaire, si cela se fait avec tel ou tel pays, je prends l'exemple de l'Ouganda par exemple, eh bien le Rwanda se sent isolé et est contraint de pouvoir utiliser comme moyen de pression sur Kinshasa les groupes armés qui lui sont favorables, on pense naturellement au M23, pour déstabiliser la situation et ce en dépit des efforts qui ont été consentis dans un certain nombre de programmes qui ont été mis en place. Dernier élément, si vous le permettez, quelques semaines avant la reprise des hostilités par le M23 l'an dernier, nous avons eu le nouveau plan de démobilisation et de désarmement ainsi que de réinsertion, de relèvement communautaire et stabilisation qui a été rendu public pour essayer de trouver une solution durable au problème des groupes armés. Et c'est malheureusement le moment qui a été choisi par le M23 pour déclencher les hostilités. C'est une situation dont nous allons discuter tout à l'heure, mais qui devrait assez rapidement trouver une issue favorable, en tout cas pour la République démocratique du Congo.
D'accord. Alors, Jean-Pierre Kaigé, pourquoi cette offensive du M23 se transforme-t-elle en crise diplomatique entre Kinshasa et Kigali? Certains, on a vu Chantal tout à l'heure, pointer un peu la puissance de feu de ce groupe.
Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, par là de la puissance de feu d'un groupe ou d'une rébellion, je trouve que c'est assez simpliste de dire, voilà, on définit une rébellion, une armée à partir de sa puissance de feu. Donc, ça dépend de quelle armée s'agit-il, de quelle rébellion s'agit-il. Donc là, je crois que c'est un détail. Ça peut pas vraiment définir l'appui ou la faute, disons, l'identité d'un groupe. Donc, c'est pas à partir de sa puissance. Vous avez des rébellions qui ne valent rien. Vous avez aussi des armées, des pays qui sont pas bien organisés. Donc là, c'est deux questions différentes. Mais c'est vrai, j'aimerais quand même revenir à la crise actuelle. Et tout à l'heure, on disait, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on a une telle crise. Ma crainte, c'est qu'on s'attaque aux conséquences. C'est-à-dire, on s'attaque aux conséquences, comme la guerre. Et puis, on se tait sur les causes d'une crise. Et ici, donc, une crise ou un conflit peut avoir beaucoup de variables, comme José l'a dit. Vous pouvez avoir, donc, il peut y avoir des conflits armés et qui sont motivés par les questions politiques. Vous pouvez avoir des conflits armés qui sont motivés par l'enjeu identitaire. Vous pouvez aussi avoir des conflits armés liés aux frontières et au temps. Et je crois de plus en plus, par exemple, dans le cas de l'Afrique, il y a beaucoup de conflits qui sont liés à la question identitaire ou plutôt où l'élément identitaire est utilisé. Mais dans le cas précis, par exemple, du Nord Kivu ou de la région des Grands Lacs, donc on dit, voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je crois que c'est une crise qui existe depuis très longtemps et vraiment dans les années 60. Donc c'est certainement au Rwanda, on est en 1959, où il y a une crise entre Hutu et Tutsi, mais au Congo, et spécialement dans le Nord Kivu, la crise existe entre 60 et 64. Donc souvenez-vous de ce qu'on appelait, par exemple, la guerre de Kanyarwanda. Donc il y a des populations rwandophones qui sont au Congo, et d'ailleurs, pas le documentaire, mais plutôt le reportage, et justement, merci beaucoup, le reportage, et personne ne parlait Kinyarwanda. Donc ça fait, les victimes sont des populations, pour la plupart, pour les régions, les noms Rutshuru, Kiwanja, Nyiragong, etc., ce sont des noms rwandophones. Donc, je vais finir, juste une seconde, ce sont donc des populations rwandophones qui sont victimes. Et dans ces populations, il y a une partie, donc on appelle la population Tutsi, et qui est victime, qui n'est pas acceptée depuis. Donc, et une question que je peux poser à tout Congolais ou au gouvernement congolais, qu'ils expliquent pourquoi, en 1900, pendant la conférence nationale souveraine, tout Congolais Tutsi était exclu de la salle.
Alors, si vous le permettez,
ça montre que la crise est vraiment profonde. D'accord. Et je reviens, donc il faut aussi qu'on passe aux causes.
Alors, c'est une question que j'aimerais aborder en seconde partie, si vous le permettez. Mais Chantal, ce sentiment d'abandon de la communauté internationale qu'on a vu un peu, en tout cas à Goma, c'est un sentiment qui est justifié. On a vu tous ces manifestants s'en prendre au casque bleu aussi. C'est un sentiment qui se justifie?
Oui, ça se justifie parce que c'est la plus longue et plus coûteuse mission des Nations Unies qui ait existé de par le monde. Mais j'aimerais d'abord revenir sur le fait qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes à cette résurgence de la crise d'insécurité au Nord Kivu. Il y a essentiellement ces sentiments belliqueux de notre voisin. On le sait très bien qu'aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur ou parmi les grands producteurs du coltan, alors que dans son sol, il n'y a pas ces coltans. L'Ouganda a la plus grande raffinerie d'or, alors que dans son sol, il n'y a pas autant d'or. Et donc, on le sait très bien que nous avons des voisins qui sont animés par l'esprit d'accaparement des terres et également les pillages de nos ressources. Oui. Tout ce que nous, on demande, c'est de passer par une coopération gagnant-gagnante et on ne fait plus couler les sangs. C'est ça, en fait. Parce que nous avons des sociétés multinationales sur les terres congolaises. Mais pourquoi ils veulent seulement passer par la voie belliqueuse, la voie qui fait couler les sangs, la voie qui fait perdre autant d'années de développement pour notre pays, comparé aux pays, et aujourd'hui on peut même prendre l'exemple de Luanda et de Nairobi. À Luanda, on a vu le président rwandais être interpellé par ses pairs africains. C'est-à-dire que ouvertement, ce soutien a été démontré et même l'ONU l'a reconnu. Donc, ce n'est pas vraiment un secret de polichinelle.
D'accord. Alors, Henri, le Kenya, justement, a annoncé l'envoi de troupes dans l'est de la RDC. Vous pensez que la force régionale est-africaine peut faire quelque chose?
L'expérience récente montre que les résultats ont souvent été mitigés. Nous n'allons pas faire de procès d'intention par rapport au déploiement de la brigade d'intervention des États d'Afrique de l'Est. Il faut simplement lui laisser le temps de se déployer. Mais malheureusement, le temps joue contre nous. Donc il va falloir trouver une alternative. Mais ce qui est clair, c'est que l'intégrité territoriale de la RDC est non négociable. Et donc si la RDC, les autorités, l'armée doivent restaurer l'autorité de l'État là où elle est menacée, cela se fera avec ou sans la brigade d'intervention. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je dois tout de même rappeler, c'est que dans un passé récent, en 2013, lorsque les déclarations de Nairobi ont été signées, je rappelle le 12 décembre 2013, il y avait un nombre d'obligations qui devaient être remplies, en tout cas par les parties signataires. Une longue accalmie de 8 ans s'en est suivie et on peut légitimement se poser la question de savoir ce qui a pu véritablement motiver le M23 à reprendre les hostilités après une aussi longue période d'accalmie.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, le président burundais qui dirige l'AOC annonce une réunion prochaine des chefs des armées de la communauté est-africaine. Comment juger l'implication de cette région? Est-ce qu'elle met un peu trop l'accent sur l'aspect militaire, selon vous?
Deux choses d'abord. J'aimerais dire que, comme on l'a dit, l'intangibilité des frontières au Congo sont non négociables. Et ça, je crois, tout le monde devrait le comprendre et l'accepter. Cependant, il est très important d'allier la notion d'intangibilité des frontières au droit des communautés propriétaires de leurs terres à vivre tranquillement et à toute sécurité dans ce pays et dans leur région. Et je reviens, vous avez entendu dans le reportage que ces populations, ces victimes parlaient de Kinyarwanda. Donc vous ne pouvez pas parler de terres congolaises et dire que les populations ne sont pas congolaises. Et donc ça, c'est un élément très important dans la résolution de la crise. Un autre élément, je crois qu'il faut faire attention au discours de la haine qui circule et qui est devenu vraiment banal.
Banal et acceptable. Oui, on est obligé d'aller un peu rapidement sur la question de l'implication régionale. Rapidement, avant d'aller au commentaire.
Oui, sur l'implication, je crois que c'est très bien et c'est même positif que la région soit engagée. Peu importe la crise, peu importe les conflits, peu importe les types de violences, je crois qu'il faut vraiment privilégier la diplomatie. D'accord. Il faut privilégier. Je crois que, bon, c'est vrai, mais ce qu'on devrait aussi savoir, donc l'armement, donc un conflit armé, il n'y a pas qu'une solution militaire.
D'accord.
Donc,
évidemment, merci Jean-Pierre. On est obligé d'aller vite. On va lire rapidement quelques commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit « L'Union africaine appelle au dialogue, mais tout accord régional devra tenir compte de la protection des préoccupations humanitaires des civils concernés. Il est essentiel de veiller à ce que les responsables des atrocités soient traduits en justice. » Mamadou Seck à Dakar, il dit « Il est incompréhensible que l'armée ne puisse pas sécuriser le territoire. Il est vrai que les frontières sont poreuses en Afrique. Mais malgré tout, l'État congolais a le devoir régalien d'assurer l'inviolabilité du territoire de la RDC. » Et puis Julien Moussabao est à Goma. C'est le Rwanda qui agresse la RDC, pas le M23. Alors merci beaucoup. Restez fidèles à VOA Afrique Washington. Le forum revient après une très courte pause.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités, Goma Chantal Faïda, coach en leadership féminin, chef d'entreprise et candidate aux prochaines élections en RDC, candidate à la députation à Tanger au Maroc, Henri Désiré Zouzi, analyste diplomatique, producteur associé du JT diplomatique, et à Boston, Jean-Pierre Carrégué, professeur à Dickinson College, qui se trouve en Pennsylvanie. Alors Chantal, il faudra qu'on aille un peu rapidement. La diplomatie a-t-elle encore une chance?
Oui, je dirais qu'on peut y penser, mais à 20%. On aimerait aujourd'hui qu'on puisse se consacrer principalement sur l'option militaire, parce que la RDC a plus de 450 tribus et aucune tribu n'a pris les armes pour faire valoir ses propos ou ses
revendications. Ah, si, quand même, il y a beaucoup de rébellions armées dans plusieurs.
Chaque 5 ans, nous avons des élections. Les personnes qui ont des revendications ou des cahiers des charges à présenter se présentent aux élections et intègrent les institutions. Et aucune communauté ne prend les armes contre une autre. Mais c'est une invasion, c'est une agression par les sentiments belliqueux d'invasion et d'accaparement, des pillages de nos ressources que nous dénonçons. Et nous demandons le soutien de la communauté internationale.
Oui. Allons-y rapidement. Henri Désiré, depuis 2013, il y a eu plusieurs processus en Nairobi, l'accord cadre de Lusaka, Addis Abeba. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué jusque-là et vers quoi on doit s'orienter? Jean-Pierre, Henri.
Je dirais d'une part la bonne foi des signataires, et je pense naturellement aux différents groupes armés. Je rappelle quand même que le 23 mars 2009, il y avait déjà eu les accords dits aussi à Goma avec ce qui semblait à l'époque au CNDP. Mais 2 ans plus tard, c'est le CNDP qui revient avec un nouveau nom, c'est-à-dire le M23. Nous avons eu ensuite les déclarations de l'Nairobi. Là, une fois de plus, le signataire qui est le M23 s'est engagé sur un certain nombre de points. On peut dès lors s'étonner, je l'évoquais il y a quelques instants, que cela n'ait pas été respecté. Et ce qui justifie précisément le fait qu'ils reprennent cet activisme-là, ça correspond avec la mise en place de plans qui sont censés précisément répondre à leurs préoccupations. Lorsque l'on parle de démobilisation, de désarmement, de relèvement communautaire et de stabilisation, cela va précisément dans le sens.
D'accord. Alors,
meilleure intégration, là, qu'on puisse en parler. Et surtout, le plus important, qu'on ne sert plus le discours de victimisation de telle ou telle minorité.
Mmh. Jean-Pierre, vous faites partie d'un groupe d'intellectuels qui avait écrit au mois d'août une lettre ouverte au secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui avait accusé le Rwanda de soutenir le M23, hein, et vous disiez qu'il fallait plutôt avoir une approche globale. Pour vous, en plus des initiatives régionales, quel doit être le rôle de pays comme les États-Unis par exemple?
Oui, disons, je voudrais plus. Les États-Unis, c'est vrai, de par son prestige, de par sa force, peuvent jouer un rôle important. Mais revenons à la crise. Pour moi, donc, comme vous avez dit, c'est une crise qui a beaucoup de dimensions. Mais parlant de, comme vous savez, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Et c'est la raison pour laquelle ça peut revenir à tout moment. Et je pose la question à quiconque, à n'importe quel intellectuel congolais, qui m'explique pourquoi tous les Tutsis étaient exclus de la conférence nationale souveraine. Pourquoi? Et Chantal qui est au Nord Kivu, Monseigneur Kanyama Tchoumbi, qui était secrétaire de la conférence épiscopale du Congo, de Zaïre à l'époque, était exclu de la conférence nationale souveraine. Alors, et pourquoi? Et donc ça signifie... Et
j'aimerais que vous répondiez à la question rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Je pense que vous avez suffisamment développé cette question Tutsi. Si vous le permettez, en 30 secondes, on est obligé d'avancer.
Oui, donc je crois que la diplomatie, comme je l'ai dit, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans des conflits armés, et que je pense que le fait que la région, donc surtout du côté est, commence à s'impliquer à cette crise, c'est un élément très important, parce qu'à partir de là, il peut encore se développer d'autres mécanismes, donc des mécanismes pour créer la paix. D'accord. Dans cette région. C'est vrai que la crise qui se passe au Nord Kivu affecte toute la région. C'est la raison pour laquelle laquelle le Kenya se sent concerné, le Rwanda, et l'Ouganda, le Burundi, etc. Et comme vous le savez, ce sont les mêmes populations.
D'accord.
Donc là, nous avons des territoires et qui fonctionnent. Et si vous savez, entre le Nord Kivu et le Rwanda, il y a des mouvements des populations et qui sont importants, peut-être deuxième dans le monde.
Je vais essayer d'être juste. On a 3 minutes. Je donne 1 minute à chacun. Chantal, dans cette recherche de solutions, comment éviter la stigmatisation justement et les tensions intercommunautaires? On a vu l'appel du gouverneur militaire cette semaine.
Il y a des cas isolés de stigmatisation et nous les dénonçons. Mais nous rappelons que le Rwanda, l'Ouganda sont des pays africains qui ont signé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit cette invasion d'un État par un autre. Et l'invasion est ouverte et elle est démontrée.
D'accord.
Nous appuyons le gouvernement dans sa réponse militaire cette fois-ci pour mettre fin définitivement à ce cycle de violence. Le Nord qui va devenir un foyer de violence, cela doit cesser parce que le peuple a longtemps souffert. Plus de 10 millions de personnes ont perdu la vie. C'est un génocide qui n'est pas reconnu au niveau international et on se demande pour quelles raisons.
Alors Henri, une minute pour nous parler un peu de cette question de, disons, des risques de tensions intercommunautaires.
Ben, le gouvernement, bien évidemment, condamne toute forme de stigmatisation. D'ailleurs, des avertissements très clairs ont été adressés contre ceux qui pourraient être tentés par ce genre de discours. Il est bien évident que les Congolais n'ont jamais été des personnes racistes et donc il est important que la sécurité des minorités et des communautés puisse être préservée et le gouvernement, bien évidemment, prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi.
Et justement, en tout cas, le gouverneur militaire de Nord Kivu a réitéré ses propos. Dernier mot, Jean-Pierre.
Oui, dernièrement, je pourrais dire deux choses. D'abord, concernant le discours de la haine, qui est un discours très dangereux et qui a comme conséquence, vous avez vu, le cannibalisme. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués et que quand on dit non au discours de la haine et en même temps on le soutient quelque part, c'est la banalisation de ce discours. Et deuxième élément, je pense qu'il faut que le gouvernement congolais apprenne à protéger les communautés marginalisées, prêtes à s'enrôler par désespoir dans des rébellions
Et voilà, donc je pense que nous avons encore quelques secondes. Je vais demander à Henri qui pratiquement est l'analyste diplomatique de ce panel. Henri, rapidement, en 30 secondes, la prochaine étape sur le plan diplomatique pour vous, c'est quoi?
Bah écoutez, il y a des chefs d'État qui s'activent en coulisses pour essayer d'apaiser les tensions entre Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce qui est important, c'est surtout de rappeler l'inviabilité des frontières de la RDC et le droit légitime de la RDC à se défendre lorsque une situation de ce type survient dans une partie de son territoire.
Mmh. Mais on n'a pas beaucoup parlé aussi du rôle des FARDC, malheureusement.
Oui, je crois que vous avez vu si...
Les FARDC
vous permettez...
sont
pour... Oui, est-ce que je peux acheter juste un petit mot?
Oui,
je crois que le dernier rapport des droits, disons des droits de l'homme, mentionne la responsabilité des forces congolaises contre la population, mais aussi et l'engagement...
Voilà. C'est la fin de ce Washington Forum. On aura certainement l'occasion de revenir avec tout cela. Merci énormément à mes invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com, sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. Au revoir.